VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 18h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal au Sahel. Les accrochages continuent entre les forces anti-djihadistes et les éléments armés. Les forces armées françaises ont tué 4 membres d'un groupe armé qui avait ouvert le feu sur elles dans le nord du Mali, près de la frontière algérienne. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le colonel Patrick Steger, porte-parole de l'état-major français. Le colonel Steger a précisé lors du point de presse hebdomadaire de la défense que dans la nuit de dimanche à lundi, la force Barkhane a neutralisé un groupe armé terroriste dans la région de Bouguessa lors d'une opération d'interception. Selon le porte-parole, les 4 membres du groupe ont été tués après avoir tiré sur les soldats français. 2 mitrailleuses lourdes, 2 lance-roquettes, 4 fusils d'assaut Kalachnikov et une grande quantité de munitions ont été saisies, a ajouté le colonel Patrick Steger. Et puis au Niger, une patrouille du détachement de l'unité antiterroriste du Niger basée à Wallam a été attaquée mercredi. 11 soldats auraient été tués, plusieurs personnes sont toujours portées disparues. Les militaires sont tombés dans une embuscade vers 18h pendant un temps d'arrêt dans la localité de Tiloa, près de la frontière malienne. Les assaillants ont volé du matériel militaire, dont des véhicules, avant de prendre le large. Au Nigeria, 2 archéologues allemands ont été kidnappés mercredi dans le village de Djengela, situé dans le sud de l'état de Kaduna. 2 villageois qui ont tenté de leur venir en aide ont été abattus par les ravisseurs. Claire Morin-Gibault.
L'enlèvement a été confirmé par Ousmane Aliou, porte-parole de la police locale. Les 2 hommes étaient bien connus dans le village. Ils travaillaient depuis 10 ans sur le site d'archéologie dans cette région connue pour ses figurines Nok en terre cuite. Les 2 archéologues n'ont pas voulu bénéficier de l'escorte de sécurité de la police, préférant rester avec les riverains. Les 2 femmes qui les accompagnaient n'ont pas été enlevées. Le kidnapping a eu lieu à une 30aine de kilomètres de la route reliant l'aéroport de Kaduna à la capitale fédérale Abuja. Cet enlèvement inquiète les autorités car l'aéroport d'Abuja doit être fermé pour 6 semaines à partir du 8 mars pour des travaux de réparation du tarmac. Les vols intérieurs doivent être détournés sur Kaduna, situé à 160 km au nord d'Abuja. Les passagers seront alors convoyés par des bus sécurisés jusqu'à la capitale. Les compagnies internationales comme Air France ont refusé d'utiliser l'aéroport de Kaduna en raison des infrastructures vétustes et des problèmes de sécurité.
Au Cameroun, le calme est revenu dans la ville de Moutenguéné, en zone anglophone, après une nuit agitée hier. Les jeunes de Moutenguéné ont pris la rue pour se faire justice après la mort d'un jeune présumé délinquant abattu par la police. Les manifestants ont attaqué l'unité de police en question et brûlé une partie du lycée bilingue après l'avoir saccagé. La police anti-émeute est intervenue pour ramener l'ordre. Moutenguéné abrite le plus grand centre d'instruction de la police au Cameroun. C'est la première fois que la ville est secouée par des remous depuis le début de la contestation dans les 2 régions anglophones du Cameroun. Les anglophones s'estiment marginalisés. Les leaders de leur mouvement de contestation sont actuellement en prison et jugés pour terrorisme. Crise humanitaire dans la région du lac Tchad maintenant. ONG et pays donateurs se retrouvent ce jeudi et vendredi à Oslo en Norvège pour essayer d'aider les millions de personnes menacées par la famine aux environs du lac Tchad où sévit le groupe djihadiste Boko Haram. Objectif de l'ONU, collecter dans la capitale norvégienne jusqu'à 1,4 milliard d'euros d'engagement pour le bassin de ce lac bordé par le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Tchad. Déshérité et aride, la région est ravagée par 8 ans de violence. Selon le ministre norvégien des Affaires étrangères Børge Brende, plus de 10 millions de personnes ont besoin d'assistance.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RDC, l'armée congolaise affirme que 16 personnes ont été tuées en 3 jours dans les combats qui ont opposé les forces gouvernementales aux rebelles du mouvement du 23 mars, le M23, dans l'est du pays. Les FARDC, les forces armées de la RDC, ont résisté et mis en déroute les rebelles du M23, a déclaré le major Guillaume Djike, porte-parole des opérations Sukola 2 dans la province du Nord Kivu, ajoutant que le bilan est de 16 morts, 5 rebelles capturés et 58 autres qui se sont rendus. Aujourd'hui, la situation est calme. Nous demandons à la population qui a fui les combats jusqu'en Ouganda de regagner le pays. C'est ce qu'a déclaré au téléphone à l'AFP Liberata Buratoa, administrateur du territoire adjoint de Rutshuru, toujours dans la province du Nord Kivu. Mi-janvier, le gouvernement congolais et de nombreux témoignages d'habitants de la région avaient fait état de la présence dans le secteur de Rutshuru d'ex-combattants du M23 en provenance de l'Ouganda voisin. Mais le M23, pour sa part, affirme que les ex-combattants qui retournent dans leur pays sont non armés et n'avaient aucune intention de faire la guerre. Le M23 accuse le gouvernement congolais de refuser d'appliquer ses engagements dans la mise en œuvre de l'accord qui devait faciliter le retour au pays des réfugiés et des ex-combattants du M23. Pour la MONUSCO, toutefois, la mission onusienne sur place, le M23 représente une menace actuelle pour la sécurité dans l'est de la RDC. L'ONU dit disposer de multiples indices sur la présence de ces ex-combattants sur le territoire congolais. On passe maintenant au Gabon. Soutien sans réserve de l'ancien candidat à la présidence, Jean Ping, à la grève des enseignants ainsi qu'aux marches des lycéens dispersés lundi par la police. Les détails avec John Lyndon.
Le principal syndicat d'enseignants a appelé tous ses membres à arrêter le travail en réponse aux sanctions annoncées mardi par le gouvernement contre 807 enseignants grévistes qui allaient être privés de soldes. Jean Ping soutient sans réserve les élèves ainsi que leurs manifestations, a écrit dans un communiqué l'opposant qui s'est autoproclamé président élu. Ce dernier condamne la violence policière exercée lundi contre des lycéens. À Libreville, Port-Gentil, Oyem et Lambaréné, des lycéens ont marché pour demander le paiement des bourses et la reprise normale des cours, dont la fin du conflit entre l'État et les syndicats d'enseignants en grève depuis le 31 octobre. Pour le porte-parole du gouvernement, Alain-Claude Bilivinzi, la marche a été empêchée parce qu'il n'y avait pas eu de demande d'autorisation.
Au Burkina Faso, le 25e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, s'ouvre samedi en toile de fond des inquiétudes sur la sécurité. Anne Albertson nous en dit plus.
Quelques 164 films de tout format sont en compétition, dont 20 longs-métrages pour la récompense suprême, l'étalon d'or de Yenanga. Une cinquantaine de films seront aussi présentés hors compétition. En dépit de la menace djihadiste, les autorités burkinabées ont maintenu l'événement, une des rares manifestations qui contribue au rayonnement mondial de ce pays sahélien très pauvre. Le gouvernement a assuré qu'un effort particulier était fait sur la sécurité, sans vouloir divulguer les effectifs de forces de l'ordre qui seront déployés. Le budget de l'édition 2017 du FESPACO s'élève à 1,2 milliard de francs CFA, financé par l'État. Le réalisateur et dirigeant du 7e art marocain, Noureddine Sahil, présidera le jury dans lequel siégeront de grands noms du cinéma et de la littérature d'Afrique et de la diaspora. En marge du FESPACO se tiendra la 18e MICA, la bourse de programmes audiovisuels africains et sur l'Afrique. Le chanteur de reggae ivoirien Alpha Blondy sera samedi la grande attraction de la cérémonie d'ouverture.
Les relations américano-mexicaines maintenant. Visite au Mexique du chef de la diplomatie américaine et du ministre américain de la sécurité, respectivement Rex Tillerson et John Kelly. Les deux visiteurs s'entretiennent ce jeudi avec le président mexicain Enrique Peña Nieto et des membres de son gouvernement sur plusieurs problèmes bilatéraux, notamment l'immigration, le commerce et la lutte contre le trafic de drogue. Timothée Donagmaï.
Les autorités mexicaines sont très remontées contre la politique du président Donald Trump en matière d'immigration, en particulier sa décision d'expulser massivement les sans-papiers, dont quelques 6 millions de Mexicains. Elles ont vivement dénoncé son projet d'ériger un mur le long de la frontière commune et d'en faire payer le coût, estimé à au moins 12 milliards de dollars, par le Mexique. Cette controverse avait amené le président Enrique Peña Nieto à annuler un voyage prévu en janvier ici à Washington. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson et le ministre de la Sécurité John Kelly ont donc la mission de rassurer le gouvernement mexicain quant à la volonté de Washington de préserver les bonnes relations avec Mexico, des relations saines et robustes, a tenu à souligner le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer. Le Mexique n'acceptera pas les nouveaux projets unilatéraux des États-Unis en matière d'immigration et n'hésitera pas à saisir les Nations Unies, a averti le ministre mexicain des Affaires étrangères, Luis Videgaray.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.